Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi, les 18h à Kinshasa. Voici un nouveau journal. La mission d'observation électorale 5OSCC recommande à la CENI et à la Cour constitutionnelle de tirer les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence et sur la base des calculs des résultats avant de proclamer les résultats provisoires et définitifs des scrutins. Les inondations et glissements de terre qui frappent Kinshasa, Kananga et d'autres villes riveraines du fleuve Congo étaient au centre aujourd'hui à Kinshasa d'une réunion restreinte du gouvernement présidé par le Premier ministre. Des ministres concernés sont instruits de prendre les dispositions qui s'imposent pour assister les sinistrés. Notre invité, c'est le responsable du bureau de recherche et au forum de la paix de Beni au Nord Kivu. Papi Kasereka affirme que les irrégularités qui ont émaillé les élections dans cette ville sont de nature à impacter la légitimité de futurs élus à tous les niveaux. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. La mission d'observation électorale 5OSCC recommande à la CENI et à la Cour constitutionnelle de tirer en toute responsabilité et toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base des calculs des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Monseigneur Donatien Cholet l'a déclaré aujourd'hui lors de la publication du rapport de la mission d'observation 5OSCC. Il a souligné que cette mission d'observation électorale a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats à certains endroits. Il est au micro de Paul Matendo.
La MOE 5OSCC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. La MOE 5OSCC invite la CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base des calculs des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins.
Dans le même chapitre, notez que le CIMOCEL s'est dit troublé par le nombre important des matériels sensibles de la CENI détenus par des particuliers, y compris certains officiels qui ont voté à l'absence d'agents électoraux et de témoins. Dans une correspondance adressée hier au président de la CENI, Denis Kadima, cette mission d'observation électorale veut avoir des explications sur ce phénomène et qui est de nature à fausser les résultats des élections. De Michel Kifinangoy.
Comment expliquer que le matériel sensible de la CENI puisse se retrouver dans autant de mains de particuliers? Quelles sont les garanties qui ont été données par le fournisseur à la CENI sur la sécurité du matériel acquis par elle auprès d'eux? Quelle est la quantité exacte du matériel commandé et comment a été géré ce matériel? Ces questions adressées au président de la CENI traduisent la vive préoccupation de la CIMOCEL qui s'est dit troublée par la recrudescence des cas de particuliers détenant des matériels sensibles de la CENI et opérant librement des opérations de vote dans leur maison ou dans des lieux non indiqués comme centre de vote. Pour cette mission d'observation électorale, ce phénomène se constate dans plusieurs provinces et chez diverses personnes, souvent des officiels appréhendés en flagrant délit par des citoyens ou par des policiers. Le taux étant si élevé est de nature à fausser de manière imparable les résultats des scrutins que la CENI proclame progressivement, souligne la CIMOCEL.
Merci Michel Kifinangoy pour ces précisions à propos de la Cimocel. Et puis le procureur général près la Cour des cassations instruit à Kinshasa tous les procureurs généraux près les cours d'appel et les hauts magistrats près cette juridiction de la RDC de saisir tous les cas infractionnels relatifs aux discours de haine tribale et de racisme. Dans une communication faite hier ici à Kinshasa, Firmin Vondé affirme qu'il a déjà enregistré quelques cas répréhensifs de violation de la loi à travers le pays et qui font actuellement l'objet d'examens à son office. N'est-ce pas, Jeff Ngoy?
Selon le procureur général, il s'observe une montée des cas de personnes qui, sous prétexte d'user des libertés constitutionnellement garanties, s'éloignent dans leurs actes et paroles des limites légales, versent dans le libertinage. À cet effet, Firmin Vonde rappelle que la propagation de faux bruits est constitutive d'infractions prévues par l'article 199 du Code pénal. De même, la loi punit l'incitation à la haine tribale ou au racisme. La protection de l'ordre public exige la répression des hors-la-loi et leur mise au rencard. Tous les hauts magistrats du parquet général près la Cour de cassation sont donc instruits de traiter tous ces cas portés à leur connaissance afin de garantir à tout Congolais la quiétude et l'usage de ses droits sans lesquels la vie serait un calvaire, dit le procureur. La RDC n'étant pas sous un régime bananier, indique Firmin Vondé, la population est appelée à dénoncer tous les cas qui mettent à mal les lois du pays. Il met en garde les personnes qui estiment être au-dessus des lois, qu'elles ne seront pas épargnées par l'application des dispositions légales pour leur forfaiture.
Jeff Ngoy sur Radio Okapi. Plusieurs dysfonctionnements ont été dénoncés lors des élections du 20 décembre en RDC. Ils portent notamment sur des machines à voter retrouvées entre les mains de certains particuliers et des électeurs qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes affichées par la CENI. Pour améliorer la tenue des prochaines élections en RDC, Gershom Kahebe, candidat à la députation nationale à Beni au Nord Kivu, propose la digitalisation qui consiste à utiliser les empreintes digitales pour empêcher de voter plusieurs fois. Il s'est confié à Alain Rongmouchige.
On peut avoir une puce capable de lire les empreintes digitales de chacun. Un électeur devant la machine à voter devra tout d'abord, pour débloquer la machine, mettre son doigt sur la puce qui devra lire les empreintes et se rassurer que c'est la personne qui s'était enrôlée qui est en présence de la machine. Dès que cela est établi, la machine va se débloquer et la personne va procéder au vote. Si la même personne revient deux fois ou bien va chercher à voter ailleurs, dès qu'il met son doigt sur la puce, celle-ci devra détecter qu'il a déjà voté, que le vote est déjà fait quelque part ailleurs. Et par conséquent, la machine ne va pas se débloquer. Cela, ça va empêcher que qui que ce soit vote pour l'autre ou bien vote deux fois. Mais aussi, cela va résoudre le problème des listes. On ne pourra plus avoir besoin des listes, de voir, de chercher son nom, de retrouver son nom sur une liste pour voter. On peut voter de partout. On peut s'être enrôlé ici, on va voter là-bas. Parce que c'est le système qui gère les électeurs ainsi que leurs empreintes digitales.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, le ministre de la Communication et des Médias appelle la communauté nationale et à ne pas stigmatiser le journaliste, quelle que soit la couleur de sa peau ou les médias auxquels il appartient. Appel lancé ce jeudi à Kinshasa en marge d'un atelier ou d'un déjeuner de travail avec des journalistes de la presse internationale accrédités à Kinshasa. Patrick Mouyaya Katemwe est au micro de Paul Matendo.
Que nous voulons profiter de ce moment pour dire par rapport à ceux qui nous ont rapporté qu'il est hors des questions d'aucune manière de stigmatiser le journaliste, que ce soit par la couleur de sa peau ou par la couleur de son média. Les journalistes à la démocratie, ils sont précieux parce que c'est eux qui permettent aussi de montrer ce qui se passe ici. Donc, nous lançons un appel pour que personne ne s'en prenne aux journalistes. Évidemment, s'il y a des sujets, on n'apprécie pas leur couverture, les journalistes sont accessibles, eux-mêmes sont aussi disposés à donner la voix à tous les camps pour s'assurer que le principe de la neutralité est garanti à leur niveau. Parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'au terme de ces processus électoraux, quand nous ferons les bilans, on va dire autant que la CNI a fait ce qu'elle a fait, la police, autant les médias, que ce soit des médias locaux et des médias internationaux, ont accompagné les processus qui permettent à la RDC de consolider sa démocratie.
Dans un autre chapitre, les inondations et autres glissements de terre qui frappent quelques villes de la RDC telles que Kinshasa, Kananga et d'autres villes riveraines du fleuve Congo étaient au centre de la 5e réunion restreinte du gouvernement congolais présidée par le Premier ministre ce jeudi à Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement, des ministres concernés ont été instruits de prendre des dispositions qui s'imposent afin d'assister les familles sinistrées. On écoute un extrait du compte rendu fait par Patrick Mouyaya.
Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation à Kananga, à Kinshasa, dans les villes riveraines du fleuve Congo, ainsi que des dispositions urgentes qui doivent être prises pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées, mais qui doivent pour certaines, évacuer les lieux qu'ils occupent. À ces propos, il a été complété par les ministres d'État, ministres des infrastructures, qui a présenté au gouvernement quelques axes pour trouver des solutions rapides pour les zones qui sont touchées. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre, ministre des Finances, pour que des dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions.
Autre nouvelle en plus bref, la régie des voies fluviales alerte sur la montée des eaux du fleuve Congo avec des conséquences néfastes. Dans un communiqué rendu public à Kinshasa, le directeur général adjoint de cette entreprise demande aux autorités et à la population de se mettre à l'abri des inondations qui touchent la plaine inondable de Kinshasa. Divine Mulumba Kapinga fait remarquer en outre qu'au vu de l'évolution exceptionnelle du niveau du fleuve Congo et la remontée des eaux du fleuve qui rapproche celle de 1961. Ces inondations menacent dangereusement les activités économiques et les riverains. Elles exposent la population aux maladies d'origine hydrique. On enchaîne avec le Nord Kivu où deux chefs d'établissement ont été tués cette nuit par des hommes armés non identifiés. Il s'agit du directeur de l'école primaire de Mashaki et celle de l'école primaire de Mwanga dans le secteur de Katoi, territoire de Masisi. Les corps ont été retrouvés ce matin à Sake. Des sources concordantes indiquent à Radio Kapi que les infortunés revenaient de Goma avec le salaire de leurs enseignants. À Goma, la correspondante de Bernardine Diamou.
Selon nos sources concordantes dans la zone, ces victimes ont été lâchement abattues par balles par des hommes armés non autrement identifiés. C'était aux environs de 21h locales. Ces mêmes sources ajoutent que les victimes revenaient de Goma avec une somme colossale d'argent, des salaires de leurs enseignants. Il s'agit donc de M. Atege Gimana Nsingira Noumouin et de M. Sebahizi Matege, respectivement directeur de l'EP Mashaki et de l'EP Mwanga de la sous-division Masisi 4. Leurs corps ont été découverts dans la matinée de ce jeudi au quartier Virunga, non loin du poste de santé de Virunga dans la cité de Sake. Impossible de préciser à quel niveau ni dans quelles conditions s'est déroulé ce double meurtre. La population de Sake qui lance un SOS demande aux autorités compétentes d'ouvrir des enquêtes sérieuses afin de mettre la main sur les auteurs de cet acte et qu'ils soient déférés devant les juridictions compétentes. À noter que les deux corps ont été dépêchés à la morgue de l'hôpital général des références de Goma et les enquêtes sont en cours, a indiqué le chef de quartier Virunga à Sake. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Revenons au Nord Kivu où une dizaine de personnes ont été tuées en l'espace d'une semaine dans plusieurs villages du territoire de Beni. Hier, mercredi, quatre autres personnes ont été tuées par des présumés rebelles ougandais de l'EDF à Mabuo, un village situé à une quarantaine de kilomètres au nord de la cité d'Oicha. Le président de la société civile locale dénonce la montée de l'insécurité dans la région en dépit de la présence des FARDC et de l'armée ougandaise. Philippe Bonané a été joint par André Kitenge.
La population du territoire de Beni est tellement en souffrance et elle est en train de se demander si réellement ces milliers-là sont parmi les milliers de la RDC. Nous connaissons que les militaires sont là, nous connaissons que les opérations conjointes de FARDC et UPDF sont présentes, mais nous regrettons comment la situation est en train de s'aggraver toujours comme ça. Donc, de jour en jour, on est en train de tuer la population. C'est pour cela que nous recommandons aux autorités militaires de faire de tout leur mieux, de bouter dehors cet ennemi qui est en train de faire du mal à la population. Vous savez que c'est le côté ouest où la population de Oïtia se ravitaille de l'aliment. Et nous sommes vers la fin de l'année. C'est là que nous nous ravitaillons même de cacao et de quoi. Mais l'ennemi est en train de faire du mal à la population. On manque comment on peut accéder dans les champs. Une fois que vous entrez dans les champs, vous êtes tués. C'est pourquoi nous leur recommandons de faire de tout leur mieux, de bouter dehors cet ennemi. Voilà un peu ce que la population demande. Parce que nous n'avons que besoin de la paix, rien que la paix.
Actualité internationale.
Le quotidien est devenu plus rude à Gaza ce jeudi 28 décembre 2023. De nombreux hôpitaux de la ville ne fonctionnent plus, la famine s'étend et il n'est plus possible d'avoir accès à l'eau potable dans certaines localités. En Cisjordanie occupée par exemple, les Nations Unies dénoncent aussi une détérioration rapide des droits humains pour la population palestinienne et demandent par conséquent à Israël de mettre fin aux homicides illégaux.
L'invité.
Notre invité, c'est le responsable du bureau de la recherche au Forum de la paix à Beni, au Nord Kivu. Papi Kasereka affirme que les irrégularités qui ont émaillé les élections dans cette ville du Nord Kivu sont de nature à impacter la légitimité de futurs élus à tous les niveaux. Il invite par conséquent les acteurs politiques à la retenue. Il s'entretient avec André Kitenge.
Papi Kasereka, bonjour.
Bonjour.
8 jours après les élections combinées au pays, quelle analyse faites-vous du déroulement de ce 4e cycle électoral ?
Merci beaucoup pour la question. Déjà, ce que nous avons pu observer avant d'analyser, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a une certaine impréparation, particulièrement à Beni, qui s'est traduit par les retards qui ont été observés et soulignés par les uns des autres. Mais aussi, nous sommes rendus compte qu'à Beni, il y a eu des bureaux de vote qui ont été délocalisés à la dernière minute, c'est-à-dire à la veille du jour du scrutin. Ce qui faisait que parfois, certains électeurs ont été désorientés par rapport au lieu où ils devraient effectuer leur vote. Le troisième problème que nous avons pu observer, c'est les difficultés pour certains électeurs de retrouver leur nom sur la liste. Parce que comme prévoit la loi, il était prévu que les listes d'électeurs puissent être affichées 3 mois avant, ce qui n'a pas été fait dans les différents bureaux de vote. Nous avons aussi observé le fait que l'usage de la machine à voter a posé problème pour certaines personnes âgées, particulièrement à Beni, dans la région ici. À cela s'ajoute le fait que la CENI a délivré des accréditations pour certains témoins des candidats, mais il y a des témoins qui ont eu du mal à accéder dans les bureaux de vote parce que dans la plupart des bureaux, la CENI a 15 personnes. Donc il y avait plus de gens qui voudraient y accéder et qui n'ont pas pu y accéder.
Certaines personnes, notamment des femmes et hommes politiques et même des membres de la société civile, évoquent des irrégularités enregistrées dans quelques bureaux de vote. Il parlait entre autres du déploiement tardif du matériel électoral, vous l'avez dit, le non-affichage des listes électorales, la fermeture plutôt que prévue des bureaux de vote pour ne citer que ces quelques exemples. D'abord, confirmez-vous ces allégations et si oui, quelles pourraient en être les conséquences sur la suite et la crédibilité même de ces élections ?
Absolument, nous confirmons ces allégations et je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu être citées parce que en termes des allégations qui ont été observées, il y en a beaucoup et ce n'est pas tout que nous avons cité dans, lors de cette interview. Je confirme, mais la première conséquence à mon sens, c'est qu'il y a eu l'engouement, mais les gens ont eu du mal parce que la CENI nous a fait savoir que les gens devaient faire au maximum dans les 5 à 6 minutes, mais on a constaté qu'il y avait vraiment au-delà du retard du fait que les matériels sont arrivés en retard, mais aussi les gens prenaient beaucoup de temps que prévu. Une personne pour voter arrivait pratiquement dans les 21 des minutes, ce qui a connu un retard considérable sur les autres électeurs. Et ça crée donc la fatigue, la frustration et l'énervement. Ce qui fait qu'en réalité, le suffrage n'a pas été suffisamment exprimé, c'est-à-dire beaucoup d'électeurs n'ont pas voté. Ça, c'est les paramètres, je pense, qu'il faut souligner. Et ce qui peut avoir donc des conséquences directes sur la légitimité des futurs élus. En mon sens, je pense que les gens qui sortiront ici, élus, ici de ces élections, n'auront pas suffisamment de légitimité nécessaire parce que beaucoup de gens ont été, d'une manière directe ou indirecte, volontaire ou involontairement, exclus du processus de vote compte tenu du retard qui a été planifié et coordonné, ce qui a conduit vers pratiquement le chaos logistique du point de vue organisationnel. Et ces dysfonctionnements-là n'ont pas permis aux électeurs d'exprimer vraiment leur voix. Beaucoup de gens n'ont pas voté.
Dans la région de Beni, les opérations de vote ont semblé se dérouler normalement, dans le calme, en dépit de la situation sécuritaire imprévisible. Comment expliquez-vous cela ?
Je pense, comme vous pouvez le constater globalement pour ce qui concerne Beni, c'est qu'il y a eu beaucoup d'organisations d'abord qui ont travaillé en termes de prévention. Des messages ont été lancés pour appeler aux candidats déjà à l'apaisement. Mais qu'à cela, vous savez, à Beni aussi, nous n'avons pas voté l'autre fois. Et que cela fait que pour cette fois-ci, l'enjeu était considérable pour nous. Il fallait absolument que nous puissions profiter de ce moment pour aller voter.
Dernière question, que recommandez-vous à la population qui attend impatiemment la publication des résultats provisoires des élections par la CENI?
Particulièrement à Beni, ce que nous pouvons dire, c'est que, et au Congo en général, je pense que nous sommes dans une période cruciale de l'avenir de notre nation et que tout va dépendre de la manière dont nous allons nous comporter. Donc c'est très important déjà que les acteurs politiques puissent lancer des messages d'appel à l'apaisement et à la rectitude. J'appelle aussi vivement à la population de Beni de ne pas se laisser diper par les publications des résultats qui ont déjà commencé depuis un certain temps, par les QG ou les bureaux des candidats. Parce que nous avons pu observer depuis un temps, chaque candidat essaie de balancer ses propres résultats au niveau local ici. À la place, c'est un allié de la CENI. Au cas où il y a écart entre ce que les QG des partis politiques publient en termes de résultats, entre ce que aussi la CENI pourrait publier, cela peut conduire à des tensions, à des violences. Donc c'est très important que les gens ne s'accrochent pas aux résultats qui sont publiés dans les groupes WhatsApp par les QG des candidats ou des partis politiques.
Papi Kassereka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Kapi, le responsable du bureau de la recherche au Forum de la paix de Beni au Nord Kivu, Papi Kassereka, interrogé à Beni par André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Pele Kipelamondo qui m'a accompagné.